On va lire les versets 1 et 2 ce matin du chapitre 3. Alors ici, quand on parle de Naomi, sa belle-mère, on parle de la belle-mère de Ruth. Et on lit ici que Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre, Seigneur, ce message ce matin, cette prédication qui provient de ta parole. Seigneur, tu nous dis que tes voies sont parfaites, que ta parole est éprouvée et que pour tous ceux qui se confient en toi, tu es leur bouclier. Seigneur, nous te demandons de visiter les cœurs de tous et toutes les personnes ici présentes ce matin, afin que, Seigneur, à travers tout ce qui sera dit, eh bien, une parole qui vient de toi puisse se loger, trouver son chemin dans le cœur de chaque personne dans ce lieu. Seigneur, nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pu se déplacer ce matin pour une raison quelconque. Fais-leur du bien, Seigneur, que tu puisses les visiter d'une manière toute particulière. Nous pensons aux personnes malades aussi. Nous pensons aussi à notre sœur Stacha qui est dans un home. Nous pensons aussi à Janine, Seigneur, qui est dans une maison de repos. Nous te demandons de les visiter, de leur faire du bien, qu'elles puissent ressentir ta présence d'une manière toute particulière ce matin. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Alors, lorsque je parle du repos pour votre vie, je ne parle pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et, pardon, je ne parle pas du nombre de jours qu'il vous reste à vivre, mais du nombre de jours que vous avez vécu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Et un des buts de la vie, c'est de pouvoir expérimenter et apprécier ce repos. Appressons-nous, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc d'entrer dans ce repos, faisons en sorte qu'aucun de nous ne désobéisse de la même manière que ceux qui étaient dans le désert et ne manque l'entrée dans ce repos. Et le mot repos que nous retrouvons ici au verset 1, eh bien, parle de tranquillité, parle de calme et parle de délassement. Et j'espère que vous vivez le repos du Seigneur aujourd'hui, ou le repos dans le Seigneur. Je pourrais plus dire le repos dans le Seigneur. Parce que le repos dans le Seigneur, c'est le mot repos en hébreu et en grec signifie vraiment cette dimension de calme, de tranquillité et d'apaisement dans chacune de nos vies. Au point où on est capable de dire, moi, je dors l'esprit tranquille. Moi, j'ai l'esprit en paix. Moi, j'ai le cœur en paix. Amen. Ah, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sourient et qui n'ont pas nécessairement le cœur en paix. Ils sont pas nécessairement dans le repos du Seigneur. Quand j'étais policier, j'ai déjà raconté ça il y a quelques années, on était 150 policiers dans le poste où je travaillais, et un des policiers, il y en avait un, c'était le bouffon de la place, quoi. Il rentrait, faisait rire tout le monde, quoi. Et un jour, eh bien, il est allé sur la pierre tombale de son père, il a bu 6 canettes de bière, et il s'est tiré une balle dans la tête. Il réussissait à faire rire tout le monde, mais il était malheureux au plus profond de lui-même, quoi. Je pense qu'il aurait aimé, et il nous faisait rire parce que c'est probablement que ça le faisait sourire, parce que souvent il souriait avec nous. Mais c'était l'homme le plus malheureux dans notre poste de police, quoi. Et la paix, et la parole nous dit à travers Jésus-Christ dans Jean chapitre 14 que la paix que le monde nous donne n'est pas la paix qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que, quand on reçoit Jésus-Christ, quand on rencontre personnellement Jésus-Christ qui est vivant, eh bien, non seulement on est en paix avec Dieu, mais on reçoit aussi la paix de Dieu. Ça, c'est important. C'est deux dimensions, ça. C'est pas juste qu'on a fait la paix avec Dieu à la croix. C'est pas juste que Jésus, a fait de la paix avec Dieu à la croix pour nous. Mais c'est aussi qu'on reçoit la paix de Dieu, quoi, qui nous amène dans ce repos. Parce que finalement, quand on lit les Écritures, le mot repos et le mot paix, on ne peut pas les séparer, quoi. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est en paix s'il n'est pas reposé, quoi. Il est toujours fatigué. Tiraillé par toutes sortes de problèmes, quoi. Il n'est pas capable de trouver la paix. Mais ici, eh bien, Naomi, c'est sa prière, elle aimerait bien que Ruth trouve la paix. Et nous pourrions décrire ce repos comme étant une profonde satisfaction de ce que vous avez vécu et qui se voit par la paix qui réside dans votre cœur et dans votre esprit. Il semblerait que c'est pas ce que les gens vivent dans ce pays, puisque la Belgique figure parmi les pays où l'on consomme le plus de somnifères, de tranquillisants et d'antidépresseurs dans le monde. Je pensais que c'était les Français qui étaient les champions de ces produits, mais apparemment que la Belgique est au top 5 des pays où on consomme le plus de tranquillisants, et le plus de somnifères et d'antidépresseurs dans le monde. Naomi désirait que Ruth trouve dans ce repos, trouve ce repos, et elle dit au verset 1, « Ma fille, je voudrais assurer le repos afin que tu sois heureuse. » Naomi voulait que Ruth soit heureuse et qu'elle passe le restant de sa vie à goûter et apprécier ce repos. Elle voulait que Ruth vive le cœur en paix plutôt que dans la crainte et dans l'inquiétude. Je ne sais pas si vous connaissez l'essayiste anglais Charles Lamb, vous l'avez sûrement pas rencontré, il est mort en 1834, a dit « Je marche de long en large me disant à moi-même que je suis heureux tout en sachant que je ne le suis pas. » Pour beaucoup de gens, affirmer avoir trouvé une grande satisfaction dans leur vie est aussi rare que d'avoir rencontré une seule fois dans leur vie un aigle d'Amérique. On estime qu'il y a quelqu'un qui se suicide tous les 30 minutes aux États-Unis. À tous les heures, il y a deux personnes qui se suicident aux États-Unis. C'est énorme, quoi. Il semblerait que beaucoup d'Américains n'ont jamais trouvé une grande satisfaction dans leur vie. Une des grandes quêtes de la vie, c'est connaître la paix, c'est connaître le bonheur et la satisfaction. Et on est inondé de publicité dans notre monde. Vous voulez en trouver la paix? Bien, faites la méditation. Essayez ci, essayez ça. Vous voulez trouver le bonheur? Allez sur les sites de rencontres, partagez avec les gens, allez dans des soirées. Notre monde est envahi par ce marché afin de vendre l'illusion aux gens qu'ils peuvent trouver la paix, qu'ils peuvent trouver le bonheur et une certaine satisfaction, à vivre comme le monde nous demande de vivre. Lorsque des moines demandèrent au poète italien Dante où il allait et ce qu'il cherchait, il répondit, « Je cherche ce que tout homme cherche, la paix et le repos. » Et dans son livre, un jardinier jette un regard sur les fruits de l'esprit. Dans son livre, Philippe Keller a écrit ceci, « Dans ce monde qui nous entoure, parmi tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens, la paix est considérée comme étant l'un des buts suprêmes à atteindre. » Et tout au long du 21e siècle, tout au long du 20e siècle, connaître la paix est probablement le sujet qui occupe encore aujourd'hui la place dans le cœur des gens. Vous entendez constamment les gens parler de paix, et pourtant, c'est ce qui fait le plus défaut dans notre monde aujourd'hui. On pensait après la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait réglé le problème des guerres dans le monde. Est-ce que vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de guerres dans l'histoire du monde en même temps que dans la période, cette fin de 20e siècle et sans début de 21e siècle, la planète est assise sur un baril de poudre, quoi. Ouais. Et on dirait qu'il y a des grands pays qui cherchent à péter une guerre pour faire de l'argent, quoi, sur le dos des gens, quoi. Les gens crient pour avoir la paix. Les gens, pour oublier qu'ils sont dans la misère, ils consomment des tranquillisants, ils consomment des somnifères, ils consomment des médicaments. Parce que l'avenir n'est pas rose pour personne. Quoi. Le monde n'a rien à offrir. C'est une fausse paix que le monde offre. Vous pensez que les gens consomment de la drogue parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils sont en paix? Vous pensez que les gens consomment de la boisson parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils sont en paix? Vous pensez que les gens vont sauter dans les discothèques, vont danser, vont péter et passer des nuits debout parce qu'ils sont heureux? Parce qu'ils ont la paix? Non. Non, ils pratiquent toutes ces choses pour oublier. Pour oublier. Qu'ils n'ont pas encore trouvé la paix. Et on sait que la vraie paix vient de Dieu. Amen. Loué soit Dieu qu'il y a un repos dans cette vie pour notre âme. En fait, Dieu veut que tous et chacun expérimente ce repos dans sa vie. Il ne veut pas que notre vie soit vide de paix et dépourvue de satisfaction. Il veut que nous vivions dans ce repos. Et ma grande tristesse ce matin, ce sont nos jeunes, quoi. Ce sont les jeunes de cette génération qu'on est en train de sacrifier, qu'on est en train de vendre une fausse paix, qu'on est en train de vendre n'importe quoi à nos jeunes, quoi. Et les jeunes se lancent corps et âme là-dedans. Moi, il y a un crime que je trouve épouvantable aujourd'hui, c'est qu'on vend de la boisson à nos jeunes. On vend de la boisson, c'est saveur chocolat, saveur vanille, saveur ci. À 17, 14, 12% de taux d'alcool. Et nos jeunes boivent ça comme ils buvaient du lait quand ils étaient bébés, quoi. On ne goûte pas l'alcool. Mais ça va au chocolat. C'est bon, ça goûte le chocolat, maman. Ah ouais. C'est bon, papa, ça goûte la vanille. Ah oui, ça goûte les fraises. À 17, 14%. On est en train de développer. On vient de passer une génération de drogués, hein. Et les baby boomers, quoi. Et là, on est en train de développer une génération d'alcooliques. Ouais. Il y a des jeunes qui préfèrent boire ces boissons, saveur vanille, saveur chocolat, plutôt que de boire un coca, plutôt que de boire un Sprite, plutôt que de boire du jus d'orange, ou toutes sortes de jus, quoi.
On est en train de développer une génération d'alcooliques. Ouais.
Regardons, Naomi croyait, elle, dans son temps, où Ruth pouvait trouver le repos.
Il est écrit, je vous invite à tourner avec moi dans le chapitre 1, le verset 9.
Naomi dit à ses deux belles-filles, hein, on se rappelle, elles ont quitté Bethléem depuis des années pour aller vivre à Moab. Bethléem, ça allait pas. On va à Moab en pensant qu'on serait mieux. Et là, eh bien, elles reviennent. Elles reviennent parce qu'elles ont perdu chacune leur mari. Quoi. Elles sont trois veuves qui reviennent. Et là, elle dit, Naomi dit à ses deux belles-filles, c'est ce qui est écrit, que l'Éternel vous fasse trouver à chacun un repos dans la maison d'un mari. Nous nous rappelons qu'à cette époque, Naomi ne vivait rien avec Dieu, que dans sa condition, elle se trompait, que le conseil qu'elle donnait, eh bien, c'était pas un bon conseil qu'elle donnait à ses deux belles-filles. Elle venait de leur dire que l'endroit où elle se trouvait, eh bien, c'est là qu'elle trouverait du repos. Elle leur dit, écoutez, retournez à Moab, quoi. Elle avait oublié que Moab, c'était un pays maudit. Non seulement les habitants vivaient sans Dieu, mais avaient rejeté Dieu. Et pourtant, c'était cet endroit que Naomi va suggérer à Ruth pour trouver du repos. Frères et sœurs, ce monde dans lequel nous vivons, on n'est pas mieux informé, ou on n'est pas beaucoup mieux informé, ni même mieux conseillé pour trouver le repos. Notre société cherche la paix, mais elle ne le trouve pas parce qu'elle cherche le repos au mauvais endroit. Le conseil de Naomi à ses deux belles-filles, ici dans ce texte, nous rappelle souvent que les gens cherchent le repos. Je vais vous donner quelques points. D'abord, on cherche le repos dans les possessions de ce monde. Tu vois, c'est pas vrai. Ah, j'invente rien aujourd'hui, hein. J'invente rien. Plusieurs pensent que s'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils possèdent toutes les choses bonnes dans leur vie, ils seront heureux. Et j'en pense que s'ils étaient très riches, ils seraient alors vraiment heureux. Mais la vérité, c'est que si vous étiez la personne la plus riche du monde, vous ne trouveriez pas la paix ni le bonheur dans vos richesses. Lorsque lorsque les richesses deviennent notre Dieu, on est pratiquement étranglé par ce Dieu. Lorsque j'étais en affaires, les gens les plus difficiles avec qui je devais négocier, c'était ceux qui avaient de l'argent. Non seulement ils ne voulaient pas m'en donner, mais ils étaient capables de m'en soutirer pour avoir le bien, le service que je leur vendais, ils leur aient fait quoi. Alors qu'il y a des gens qui étaient presque dans la misère et j'offrais un service pour leur rendre service, mais ils étaient prêts à tout me donner, quoi, pour avoir ce service-là. L'argent, la richesse, ça n'a jamais, jamais rendu quelqu'un heureux. Ça n'a jamais apporté la paix à quelqu'un. Je vous ai parlé de Rockefeller la semaine passée. Alors, c'était un bon exemple, quoi. Le titre d'un article qu'un journal consacra sur le comédien Jackie Gleason. Qui connaît Jackie Gleason? Bon, Angela, peut-être? Hein? Bon, c'est un peu l'équivalent de... même pas Gérard Depardieu, mais bon. C'était quelqu'un de... Ils avaient la même corpulence, mais Jackie Gleason, c'était surtout dans la comédie, quoique Gérard est capable d'être très comique à ses heures. Mais cet homme, qui est mort en 1987, voici le titre que le journal affichait concernant cet homme. Les faits tragiques qui n'ont jamais été révélés sur les tourments qui se cachaient dans la vie du comédien, qui gagnait 3 millions de dollars par année. Il se sentait seul, il était tourmenté dans son âme et insécure face à la vie. Nous, on n'a pas d'argent. En tout cas, moi, je suis dans la catégorie des gens qui n'ont pas d'argent. Nous, on ne comprend pas qu'un gars qui gagne 3 millions par année à faire rire le monde puisse être aussi tourmenté et malheureux, quoi. Et pourtant, il est mort dans la misère, quoi. Son argent ne lui a rien rapporté, quoi. Il a pensé qu'il trouverait la paix dans les richesses, dans les biens de ce monde. Mais ça ne lui a rien apporté. Le milliardaire Jay Gould, il est mort en 1892, qui a fait fortune dans les chemins de fer aux États-Unis, a dit ceci sur son lit de mort, « Je présume que je suis l'homme le plus malheureux de la Terre. » Le magnat d'acier Andrew Carnegie a dit qu'il a remarqué que les millionnaires, ça j'ai trouvé ça vraiment bien, il a dit qu'il a remarqué que les millionnaires souriaient rarement et ne riaient jamais. Il était bien placé pour le dire, c'était un milliardaire. Ils sourient seulement quand vous leur parlez d'argent. Ils le rient seulement quand vous pouvez leur donner une certaine certitude qui peut faire grossir leur fortune. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, les millionnaires et les milliardaires,
Ils ont de la difficulté à sourire. Et ils ne rient pratiquement jamais. Ceux qui n'ont pas d'argent pensent que s'ils avaient de l'argent, ils seraient heureux. Pourtant, ceux qui ont de l'argent nous disent que l'argent ne rendra jamais personne heureux. Quelqu'un a dit, avec de l'argent, on peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. On peut acheter de la nourriture, mais on ne peut pas acheter l'appétit. Avec l'argent, on peut acheter de belles choses, mais pas la beauté du cœur. Avec l'argent, on peut acheter une maison, mais pas le bonheur d'y vivre. Avec de l'argent, on peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Avec de l'argent, on peut s'acheter du plaisir, mais pas le bonheur. Le repos ne se trouve pas dans les possessions que nous offre ce monde. Premier point. Deuxième point. Le conseil de Naomi nous rappelle que les gens cherchent le repos dans les plaisirs de ce monde, les possessions de ce monde, les plaisirs de ce monde. Il y a ceux qui pensent que s'ils pouvaient vraiment faire la fête ou s'amuser constamment, ils seraient alors vraiment heureux. Nous rencontrons cette façon de voir les choses chez les jeunes d'aujourd'hui. Ils se disent que s'ils pouvaient faire ceci ou faire cela, s'ils pouvaient aller là ou aller à cet autre endroit, bref, faire tout ce qu'ils ont envie de faire, ils seraient heureux. Je pense à la femme de Samarie. La femme de Samarie dans Jean, qui vient chercher de l'eau au puits vers la sixième heure. Elle avait eu 5 maris. Et l'homme avec qui elle vivait, nous dit le texte, eh bien, n'était pas son mari. Est-ce que le fait de se marier 5 fois l'avait rendue heureuse? Non. Non. Elle cherchait l'amour, elle cherchait la paix, elle cherchait le repos à travers l'amour que les hommes pouvaient lui apporter. Ça y a pris un premier mariage, ça y a pris un deuxième mariage, ça y a pris un troisième mariage, ça y a pris un quatrième mariage, ça y en a pris un cinquième. Là, au sixième, elle s'est dit, ça, non. Je vais plutôt vivre en concubinage avec celui-là, ce sera moins compliqué, si ça va pas. Elle n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ. Et quand elle l'a rencontré dans le texte de Jean, ça a bouleversé sa vie, quoi. Elle a rencontré celui qui pouvait seul donner la vraie paix. Ouais. Le repos pour son âme. Ouais. Et combien cette femme, pour s'être mariée 5 fois, combien elle devait avoir soif. Combien ça doit être une femme qui était mal aimée dans sa vie. C'est peut-être une femme qui a été abusée. C'est peut-être une femme qui a vécu des choses épouvantables et qui pensait qu'à travers l'amour qu'un homme pouvait lui apporter, qu'elle trouverait le bonheur, qu'elle trouverait le repos. Elle trouverait la paix. Probablement que les 5 premiers hommes qu'elle a rencontrés l'ont marié pour ce qu'ils pouvaient soutirer de cette femme. Probablement pour son corps, mais jamais pour ce qu'elle était vraiment. Un être humain, une personne entière, créée à l'image de Dieu, que Dieu aime, que Dieu chérit, que Dieu veut voir passer l'éternité dans le paradis avec elle. Et là, elle rencontre Jésus. Et Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour condamner les gens. Il est venu pour les sauver. Il écoute son histoire. Il lui dit, t'as raison. Celui avec qui tu vis, c'est pas ton mari. Moi, je suis pas venu ici pour te juger. Maintenant, ce que tu cherches, ce que tu as cherché à travers les 5 premiers, est-ce que tu cherches encore à travers celui avec qui tu vis qui n'est pas ton mari? Moi, je peux te le dire. Parce que la source de paix vient de moi. Ce matin, si vous n'avez pas la paix dans votre cœur ce matin, il n'y a rien dans le monde qui pourra vous donner cette paix. Il n'y a une personne, il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez trouver la paix. Elle se trouve dans une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas vous donner la paix ce matin. Je peux simplement vous transmettre la paix que j'ai reçue de Jésus-Christ. Ouais. Et tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas trouvé cette paix, vous allez continuellement être à la recherche dans le monde de choses qui vont vous empêcher, de choses qui vont vous faire oublier que vous n'êtes pas heureux, que vous êtes tourmenté. Ah, vous êtes jeune, peut-être que les jeunes se disent, il parle à travers son chapeau, le vieux. C'est possible. Vous êtes jeune. Vous avez un corps qui est capable d'encaisser. Mais le corps vieillit. Et quand il vieillit, on commence à avoir besoin de béquilles, de pilules. On tire un joint. On boit une bouteille. On court les femmes. Ouais. Et là, le corps continue à s'user. Et si on a abusé de toutes ces choses, on finit par devenir une épave dans la vie. Jésus veut nous éviter ça. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Cette rencontre personnelle et intime avec Jésus-Christ. On a chanté tantôt, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Vous savez pourquoi on a cette certitude qu'on va voir Jésus? Parce que non seulement il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour vous ce matin. Il intercède. Vous êtes dans ce lieu ce matin, vous ne le connaissez peut-être pas. Il intercède pour que vous preniez cette décision qui va bouleverser votre vie. Il intercède pour que cette décision que vous pouvez prendre ce matin, eh bien, vous apporte cette paix. Cette paix à laquelle vous courez, quoi. Pourquoi les jeunes filles se donnent facilement aujourd'hui? Pourquoi? Pour se sentir aimées. Et on sait qu'une relation ne commence pas avec le sexe, elle se termine avec ça, mais elle ne commence pas là. Quelle souffrance pour nos jeunes de commencer là. Je suis allé donner un séminaire en Alsace, et j'ai parlé avec les jeunes. Et les filles me disaient, oui, mais qu'est-ce que je fais? Mon copain me dit toujours, si tu m'aimes, écoute, tu vas coucher avec moi. Je lui dis, écoute, je vais te donner la réponse. Tu lui diras, toi, si tu m'aimes, tu vas me prouver que tu m'aimes. Tu vas attendre jusqu'au mariage. Une jeune fille a le droit de dire à son copain, toi, si tu m'aimes, tu vas attendre jusqu'au mariage. Moi, je suis un garçon. 15, 16, 17 ans, j'ai couru des filles. Je leur chantais de belles sérénades. Dans si longtemps, je les avais pas eues. Et après, assez pourri pour aller raconter aux gens que j'avais couché avec la fille. Ouais. Et on est baigné dans un monde qui vit comme ça aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui sont blessées. J'ai fait des camps d'évangélisation, des filles de 13 ans, c'est deux fois qu'ils se faisaient avorter, quoi. Ouais. Ils ont commencé à les ramasser à petite cuillère à 13 ans, quoi. Ouais. Non, la paix ne se trouve pas dans ce monde. Non, le bonheur ne se trouve pas dans ce monde. Le bonheur, il se trouve dans une personne, la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. La philosophie de ce monde, c'est mangeons et buvons, amusons-nous avant de mourir. Ne conduit qu'à une vie de frustration, d'ennui, de vanité, de profonde déprime. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse offrir à quelqu'un pour l'amener à dire « j'ai l'esprit tranquille ». Le conseil de Noémie nous rappelle une troisième chose aussi. Il y en a qui rêvent de devenir une célébrité dans ce monde. Ils pensent de trouver le bonheur, la paix, le repos. Eh bien, en devenant une célébrité dans ce monde. Certains pensent que s'ils pouvaient être seulement populaires ou devenir célèbres, alors ils seraient vraiment heureux. L'objectif d'être populaire, d'être une personnalité connue et célèbre, avec leur nom affiché en gros titre dans les journaux, représente pour plusieurs la clé pour être heureux. On a juste qu'à penser à Michael Jackson, quoi. Hein, l'idole, la pop. Ouais. Ça coûtait 150 000 $ par année pour se faire injecter un tranquillisant chaque soir par son médecin pour être capable de dormir. 150 000 $, il était milliardaire. Et finalement, c'est une overdose qui l'a emporté. Michael Jackson n'a jamais trouvé la paix ni le repos en étant populaire à travers le monde entier. Jamais. Parce que la paix et le repos se trouvent encore une fois en Jésus-Christ. Amen. En 1978, Chris Evert, deux fois championne de tennis à Wimbledon, qui avait gagné plus $1 million en une seule année, se retira du tennis pendant 4 mois. Parce que selon les journalistes, elle avait réalisé qu'elle n'était pas heureuse. Certains d'entre nous avons déjà entendu parler, oh, celle-là, je vais la passer. La vraie joie, la vraie paix, le véritable bonheur ne se trouve pas dans les possessions, ni dans les plaisirs, ou à devenir célèbre. Le roi Salomon, et là, on a un exemple biblique. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 10 et 11, pour ceux qui ont leur Bible. Et pendant que vous cherchez, je vais faire tourner le ventilateur avant de perdre connaissance. C'est tellement chaud en avant, Ernest, que même mes rides sont en train de fondre. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 et 11? Je vais le lire en français courant. C'est plus facile pour ceux qui ne sont pas habitués. Je ne me suis rien refusé de ce que je souhaitais. Je ne me suis refusé aucun plaisir. Oui, j'ai largement profité de tous mes travaux. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça m'a rapporté et j'ai pu en profiter. Et j'ai eu ma part des joies qu'il pouvait donner. Puis, rendu un certain âge, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. et la peine que j'avais prise à les exécuter. J'en ai conclu que tout cela est aussi inutile que de poursuivre le vent. Vous avez déjà essayé d'attraper des poignées de vent? Vous fendez l'air, hein? Vous essayez d'attraper le vent? Vous fendez l'air, hein? Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il s'en rappelle, combien de Salomon a eu de femmes? Combien? Combien de maîtresses? Et de femmes? 300? Total de 1000? Et quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, hein, faut pas être déprimé pour commencer à le lire. Hein. Ouais. Il n'y en a pas une parmi les 1000 qui a réussi à le rendre heureux. Il n'y en a pas une parmi les 1000 qui a réussi à lui donner la paix, la joie. Et pourtant, Salomon avait reçu la sagesse de Dieu. Quoi. Il a détourné ses regards. Ouais. Et quand on détourne ses regards, c'est la présence de Dieu qui diminue dans nos vies. Et il vient raconter ça dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 10 et 11. Naomi dit au verset 9, hein, au chapitre 1, que l'Éternel lui fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle leur avait d'abord conseillé de retourner dans le pays de Moab où elle croyait qu'il trouverait le repos. Pourtant, il nous est rappelé que Moab n'est pas l'endroit où on pouvait le trouver le repos. Deuxièmement, eh bien, la personne en qui elle a finalement reconnu se trouvait du repos, elle va le reconnaître. Chapitre 3, versets 1 et 2. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? » Naomi reconnaît maintenant que le repos ne se trouve pas dans un endroit, mais dans une personne. Le repos n'était pas à Moab, mais dans le Maître. Il ne se trouvait pas dans un pays, mais dans le Seigneur. Amen! Amen! Le vrai repos se retrouve dans les ressources qu'il y a en Jésus-Christ. Et pour découvrir les ressources qu'il y a en Jésus-Christ, on en a parlé mercredi à l'étude biblique, il faut plonger nos regards dans la parole. On a besoin de se nourrir. Amen! 2 Samuel, chapitre 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier, pas pour ceux qui se confient en lui, pour tous ceux qui se confient en lui. Et j'ai dit mercredi que j'ai lu ce passage souvent, mais le mot éprouvé m'a frappé quand j'ai commencé à méditer ce passage. Frères et sœurs, notre ressource, elle se trouve en Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est éprouvée. C'est-à-dire que ce que Dieu nous vend là-dedans, pas ce qu'il nous vend, mais ce qu'il nous donne là-dedans, c'est pas de la théorie. Elle a été éprouvée, sa parole. Elle a été testée, elle a été expérimentée. Et il nous a rentré des exemples là-dedans pour voir que ce qui nous, les ressources dans lesquelles il nous invite à plonger en Jésus-Christ, ça marche. Frères et sœurs, cette parole qu'on a, à moins que vous pensiez que ça s'est écrit par les hommes, cette parole, elle descend du ciel. Elle n'a pas été inventée par des hommes sur la terre. Elle n'est pas le fruit de l'imagination des hommes. C'est une parole qui descend du ciel et on appelle ça les Écritures parce que Dieu l'a mis par écrit dans un livre en utilisant des hommes et en utilisant des hommes pour l'écrire. Frères et sœurs, c'est pas un best-seller. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est fidèle. Si vous plongez vos regards dedans quand ça ne va pas, le Saint-Esprit va vous rappeler un passage que vous avez médité. Et vous allez avoir votre solution. La source nécessaire pour satisfaire pleinement Ruth et apporter le repos, c'était Boaz. Il était le seul qui avait la capacité de rencontrer chacun de ses besoins. Au sommet d'une montagne, frères et sœurs, entre l'Argentine et le Chili, il y a une immense statue qu'on appelle le Christ des Andes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. La statue commémore le traité de paix signé en 1903, mettant ainsi fin à un long conflit frontalier entre les deux pays. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait fondre les canons argentins qui avaient terrorisé les Chiliens pour en fabriquer une statue. À la base de cette immense statue, nous pouvons lire les mots suivants. Que ces montagnes tombent plutôt en poussière que voir les Argentins et les Chiliens briser le traité de paix signé au pied du Rédempteur Jésus-Christ. La véritable paix ne se trouve qu'au pied du Rédempteur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. » Écoutez, il nous avertit, c'est pas la même paix. C'est pas la même paix. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu. Le moine Augustin, que ceux appellent, qu'il y en a qui appellent Saint Augustin, le moine Augustin, pour avoir essayé de trouver la paix dans les choses sensuelles connues de ce monde, a dit ceci, « Nos âmes sont agitées et insatisfaites jusqu'à ce qu'elles trouvent leur repos en toi, Seigneur Jésus. » Il y a un passage, c'est un dicton du monde qui dit « tout nouveau ». Je ne sais pas si on dit ça ici. Au Québec, on dit ça « tout nouveau, tout beau ». On dit ça ici? Tout le monde me regarde avec des yeux. Vous dites ça ici « tout nouveau, tout beau ». Non? Ben oui, tout nouveau, on ne voit que les bons côtés. C'est tout beau. Et on plonge souvent. On fonce. Et qu'est-ce qui arrive quand on commence à découvrir les défauts, quand on commence à regarder les mauvais côtés, à s'arrêter aux mauvais côtés, eh bien, on est insatisfait. Ça se passe dans les relations entre garçons et filles. Ça se passe dans un travail. T'en as un qui dit, je viens de trouver un travail à 3000 euros net par mois. Hey, c'est extraordinaire, il n'y a pas un plus beau travail que ça. Il en parle au bout d'un an. Il dit, ouais, ben, je pensais que c'était autrement. Ouais. Et le salaire, oui, mais tu sais, c'est pas évident, il n'y a pas juste le salaire, hein. Ouais, tout nouveau, tout beau. Et finalement, on voit, on découvre que les beaux côtés quand c'est nouveau. Et, ouais. Ce qui me fait sourire, c'est que c'est la même chose dans le mariage, non? Ouais. Moi, il y a deux ajustements que j'ai dû faire avec ma femme quand on s'est mariés. Moi, je viens d'une famille de 8. 7 garçons de filles. Donc, c'est les garçons qui prenaient la place, hein. Et ma femme, elle vient, elle, c'est que des filles et un garçon. Et la première chose que j'ai dû apprendre, ça m'a pris des mois. C'est qu'à chaque fois que je sortais des toilettes, c'était de mettre la lunette. Vous appelez ça une lunette ici? Oui. La lunette. Nous, on appelle ça le couvercle de la toilette, mais en fait, la lunette de la toilette, la rabaisser parce que les femmes, si elles s'assoient qu'elles n'ont pas regardé, apparemment que c'est très froid. Ça m'a pris des mois pour comprendre ça. Les femmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand elles prennent un tube de pâte à dents, hein? Les hommes. On était 7 sur 8 à faire ça à la maison. Et là, ça coule. Et puis, tu sais qu'il y en a d'autres qui vont passer après toi, tu ne vaut pas la peine de mettre le bouchon. Ouais. Alors finalement, on prend plus sur deux. On prend ce qui a coulé, puis hein, le suivant, quoi. Ça m'a pris des mois à apprendre que les femmes agissaient différemment. Pourtant, ma femme, elle n'avait pas vu ça quand on se fréquentait. Elle n'avait pas vu que je laissais traîner mes bas à côté de mon lit, ni mes petites culottes à côté de mon lit. Elle m'a dit, je ne suis pas ta mère, tu vas te ramasser. C'est vrai, tout nouveau, tout beau. Quand je me suis marié avec elle, il n'y avait pas un homme comme moi qui avait autant de qualité, quoi. Tout nouveau, tout beau. Mais après quelques mois, c'est bizarre, la colonne des qualités, il commençait à avoir des défauts qui sortaient, quoi. Et si elle ne m'avait pas aimé, elle serait peut-être plus avec moi aujourd'hui, quoi. Et si je ne l'avais pas aimé, je serais peut-être plus avec elle aujourd'hui. Ouais. La seule raison pourquoi je me suis jamais séparé et que je ne me divorcerai jamais, c'est que j'ai la conviction dans mon cœur que c'est la femme que Dieu m'a réservée, quoi. Et ça vous permet de faire un bon bout de chemin. Même si vous trouvez finalement qu'il y a plus de défauts que de qualités. Ça arrive, ça. Je parlais avec des couples mariés. Je lui dis, pourquoi tu l'as marié? Je ne sais pas, écoute, il n'y a que des défauts. Et on en a des défauts, nous, hein? Et heureusement que le Seigneur ne s'est pas arrêté à nos défauts. Ouais. Notre pire défaut, c'est de vivre comme on veut vivre, sans Dieu. Notre pire défaut, c'est de désobéir à la loi de Dieu. Le pire défaut, c'est qu'on n'en a rien à cirer de lui, comme la femme qui avait des portes d'hémorragie depuis 12 ans, hein, qui a dépensé tout son argent avec les médecins. Puis quand elle s'est aperçue qu'on l'avait siphonné dans son argent, quand elle s'est aperçue qu'il n'y avait plus de solution à sa misère, là, Là, le texte nous dit, est allé voir Jésus.
Ouais.
Attendez pas d'être rendu là, dans la misère, pour aller trouver le Seigneur Jésus. Il ne rejette personne, c'est vrai qu'il ne rejette personne qui vient à lui. Mais n'attendez pas d'être dans la misère totale avant de venir à cette rencontre de Jésus-Christ. Simplement pour vous épargner de vivre de très mauvaises expériences qui risquent de vous marquer toute votre vie. Nous voyons aussi que le vrai repos consiste à avoir une relation avec Jésus-Christ. Une relation. Premièrement, dans les ressources qu'il y a en Jésus-Christ se trouve le repos, mais une relation avec Jésus-Christ. Naomi, remarquez ici que Naomi fait référence à Boaz comme étant un membre de la famille. Elle faisait référence à lui en tant que parent rédempteur, c'est-à-dire celui qui avait la capacité, selon la loi, la possibilité de la racheter. Et la parole nous dit que Jésus, il est le rédempteur. Hey, ça ne veut rien dire, ça, hein, pour nous, au 21e siècle. Mais lui seul était qualifié pour nous racheter. Lui seul avait la capacité et la qualité, selon la loi de Dieu, de pouvoir nous racheter. Bon, je ne veux pas rentrer dans le message, on va garder ça pour une autre semaine. Mais racheter de quoi? Racheter du pouvoir que le monde exerce dans nos vies. Racheter du pouvoir que le diable exerce dans vos vies. Racheter du pouvoir que le péché exerce dans vos vies. Et en retour, il vient déverser son amour en nous. Ah, j'ai déjà dit, quand j'étais catholique, moi, le salut, ça ne voulait rien dire. Pour moi, on me disait, écoute, Jésus est mort pour tous les péchés du monde. Mais c'est pas vrai. C'est pas vraiment... Oui, c'est un exil qui n'exclut pas personne dans son salut. Mais ça m'atteint pas, ça m'atteignait pas du tout, ça, personnellement. Il est mort pour tous les péchés du monde. Mais bravo, Seigneur, quoi, bravo. Non. S'il est mort pour tous les péchés du monde, c'est que si tu avais été le seul pécheur sur la terre, il serait venu uniquement pour toi. Et effectivement, il est mort personnellement pour toi. Personnellement pour toi. Vois-tu jusqu'à quel point Dieu t'aime? Vois-tu jusqu'à quel point ce matin tu es unique aux yeux de Dieu? Dieu connaît ton lourd passé. Dieu connaît ce que tu as vécu. Dieu connaît tous tes péchés un par un. Il n'y a pas un seul péché qui lui échappe. Et pourtant, il a envoyé le seul qualifié selon la loi. Le seul qualifié pour te sauver, pour te racheter de tes péchés. Te racheter de tes péchés. Paul dit dans Romains 7, on est vendu au péché. C'est un gros mot, ce vendu, hein? Oui. Et le Seigneur nous a rachetés. Vendu au péché, ça veut dire qu'on était soumis à un maître. Et ce maître, la Bible est claire, c'était le diable. On n'aime pas utiliser ce mot diable, mais il existe, quoi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a rachetés de ce maître pour devenir notre maître, quoi. Pas juste votre sauveur ce matin, mais votre Seigneur, votre maître. C'est extraordinaire, ça, quand on s'arrête à ça. Parce que les conséquences de demeurer vendu au monde sont terribles, nous dit la parole, quoi. Il y a un jugement à la fin qui nous attend, quoi. Et on va devoir rencontrer Dieu sur la base de tous les péchés qu'on aura commis, mais surtout, vous qui avez entendu l'Évangile, sur la base, sur l'idée, est-ce que vous avez accepté ou rejeté l'offre que Dieu vous fait en Jésus-Christ ce matin? Veux-tu que tes péchés soient rachetés ce matin? Veux-tu recevoir le pardon de Dieu ce matin? Veux-tu avoir la certitude que si tu meurs aujourd'hui ou demain, tu entres dans la présence de Dieu, tu entres dans le paradis, et que tu vas participer à cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va créer à la fin des temps? Et là, ça va être une paix extraordinaire. Le décor autour de vous va changer, c'est dans le paradis. C'est pas le monde dans lequel on vit. Un monde qui pollue, un monde qui vieillit. Un monde corrompu, nous dit la parole, par le péché. La création souffre les conséquences du péché. Pourquoi je vous dis que ça va être différent, le décor? Parce que quand Dieu va créer cette nouvelle terre et ses nouveaux cieux, le péché n'existera plus, nous dit la parole. Le diable est envoyé chasser dans des tourments éternels. Plus de péché, plus de douleur, plus de larmes, plus de tristesse. Ouais. Et tous ceux qui auront été rachetés par le sang précieux versé à la croix par Jésus-Christ, ceux-là seuls pourront habiter avec Jésus-Christ dans cette nouvelle Jérusalem que le Seigneur est en train de nous préparer. Frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ ce matin, d'une manière personnelle, peut-être que vous ne l'avez jamais rencontré, là où vous êtes ce matin, dire « Jésus, je ne te connais pas. C'est la première fois peut-être que j'entends parler de toi de cette façon ce matin. Je sais que c'est pas une religion. C'est une personne. C'est une relation que je vais vivre avec toi. Je reconnais ce matin, Seigneur Jésus, que tu m'as racheté de mes péchés. Que seul à travers toi, je peux obtenir le pardon de mes péchés. Seigneur, je veux me repentir de mes péchés. Quand je lis ta parole, quand j'écoute ce que j'entends ce matin, je suis perdu dans mes péchés, Seigneur. Je te remercie d'avoir envoyé un sauveur merveilleux qui s'appelle Jésus. Seigneur, prends mes péchés à la croix, Seigneur. Prends mes péchés, prends-les tous. Et lave-moi par ton sang précieux. Purifie mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que non seulement tu m'as purifié, non seulement tu m'accordes ton salut, mais ta résurrection, tu es revenu de la mort à la vie, et ta résurrection me confirme qu'un jour, à la fin des temps, tu me ramèneras aussi de la mort à la vie. Tu vas me redonner un nouveau corps, le même corps que Jésus avait après sa résurrection, un corps glorifié, Seigneur. Et là, Seigneur, ce qui sera pour moi, ce sera le paradis. Quand tu reviens installer toute chose, eh bien, ce sera le paradis, Seigneur. Et je fais partie de ta famille, ton enfant. Et Jésus est un de nos parents. Il est notre parent. La Bible nous dit qu'il est notre frère. C'est extraordinaire. On est une famille. Hey, l'église, c'est pas un bâtiment, c'est une famille, quoi. C'est une famille. Amen. Ouais. Les familles sont éclatées à l'extérieur. Les familles sont recomposées à l'extérieur. Les familles ont des problèmes à l'extérieur. Mais la famille de Dieu, c'est Christ qui les tient ensemble, quoi. C'est Christ qui tient les membres ensemble. Il est la pierre angulaire sur laquelle s'appuie chaque pierre qui vient se rajouter. Et vous faites partie de ces pierres, nous dit la parole. Amen. Ouais. Moïse est celui que Dieu utilisa pour faire sortir son peuple d'Égypte et le conduire dans le désert jusqu'à la terre promise. Exode chapitre 33, versets 1 à 14. Moi, c'est un passage qui me bouleverse. Qui me bouleverse. Pour ceux qui ont leur Bible. Exode 33, versets 11 à 14. Exode 33, versets 11 à 14. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, un peu plus loin, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Et pour ceux qui ne sont pas tellement habitués au texte biblique, c'est que les Israélites sont esclaves des Égyptiens depuis 400 ans, ils sont persécutés, ils sont torturés, on ne les lâche pas, et Dieu avait prévu de les délivrer de ce peuple des Égyptiens, et il choisit un homme, il choisit Moïse. Et là, Moïse est en train de marcher avec ce peuple, qui continue à murmurer, qui n'est pas content, quoi, qui n'est jamais satisfait, quoi, parce qu'ils n'ont pas trouvé la paix. Et la preuve, c'est qu'il y en a juste deux qui vont rentrer dans terre promise, quoi. Ils n'ont pas aucune reconnaissance envers Dieu qui les délivre. La preuve, ils préféraient cracher sur la manne, la nourriture que Dieu leur donnait jour après jour, et ils voulaient retourner manger. Hein, le texte nous dit, on était bien mieux nourris en Égypte. Ah oui, il y avait trois, je vais m'en souvenir peut-être de deux, ils mangeaient trois choses à chaque jour. Des oignons, de l'ail, puis une autre chose qui ressemble à ça, quoi. Merci pour la laine, quoi. Hein? Et là, la manne, elle descend du ciel, quoi. Ouais. Et ça suffit pas. On méprise la manne, la nourriture de Dieu. Frères et sœurs, vous pouvez manger tous les jours à la maison. Vous pouvez travailler pour gagner votre nourriture. Est-ce que vous mangez cette nourriture à chaque jour? Est-ce que vous prenez le temps de manger cette nourriture spirituelle à chaque jour qui est contenue dans la parole de Dieu? Si vous appréhendez l'avenir, jetez un coup d'œil sur le passé. Je remercie le Seigneur qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Aucune n'est restée sans effet, nous dit 1 Roi, chapitre 8, verset 56. Et le texte, verset 14 ici. Verset 14, Moïse dit, « Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et frères et sœurs, la grâce de Dieu se manifeste à la croix. Vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu vous connaît par votre nom. Vous n'avez pas besoin de dire, « Seigneur, un matin, je viens prier, c'est Jean Cudon là, qui se présente. » Vous n'avez pas besoin, il vous connaît, quoi. Dieu n'est pas là en train de tendre l'oreille, il ne vieillit pas comme nous. Ben, répète-moi ton nom, j'ai mal compris, quoi. Non, il vous connaît parfaitement par votre nom, quoi. Et il dit, j'attends ce moment, j'attendais ce moment, ce rendez-vous privilégié. Et on est rendez-vous privilégié chaque dimanche, où ensemble on peut se réunir et célébrer le nom du Seigneur, quoi. lui rendre gloire pour ce qu'il a accompli pour nous à la croix, pour ce qu'il fait chaque jour dans nos vies, pour la paix, le repos qu'il nous donne en lui, quoi. Ouais. Les Israélites n'ont jamais manqué un seul repas durant leur séjour de 40 ans dans le désert. C'est tout un miracle, ça, hein? Écoutez, le désert, là, vous n'êtes pas en forêt, hein? Il n'y a pas des chevreuils qui passent à tout bout de champ, quoi, hein? Vous êtes dans un désert, quoi. Il n'y a pas d'arbres. Vous imaginez le miracle? Et on continue à murmurer contre Dieu. Hey, la manne, elle descend du ciel, quoi. Et il y en a qui manquaient tellement de foi qu'ils en mettaient un peu plus, quoi, que la quantité que Dieu leur demandait de prendre, quoi. Quel manque de foi. Ouais, Seigneur, tu as fait des miracles aujourd'hui, mais demain, vous serez encore vivant. Seigneur, je ne sais pas si tu vas m'en donner, moi, Seigneur. Hein? Pendant 40 ans, Dieu a été fidèle. Leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs souliers ne se sont pas usés, quoi. Et dans toute cette foule de gens qui sont quittés l'Égypte pour rentrer dans la terre promise, deux sont rentrés, quoi. Deux. Ouais. Deux. Chaque jour, Dieu délivrait sa manne sur le pas même de leur tente. Vous pouvez être certain que si Dieu l'a fait pendant 40 ans avec son peuple, il va pouvoir jour après jour à tous vos besoins. Vous dites amen à ça? Amen. Et si vous n'êtes pas convaincu ce matin, demandez pardon à Dieu pour votre incrédulité. Parce que Dieu le promet dans sa parole. Si vous marchez dans ses voies, Dieu ne se reniera pas pour une seule personne. Il est fidèle à ses promesses, quoi. Le repos, frères et sœurs, il se trouve en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Dans ce passage, Jésus promet à tous ceux qui viennent à lui qu'il leur donnerait du repos. Nous avons vu au tout début que le mot repos signifie tranquillité, calme et délassement. Et c'est ce que Jésus promet. Il promet à tous ceux qui lui font confiance de leur permettre de se reposer de leurs travaux et de tout ce qu'ils tentent de faire pour trouver une satisfaction dans la vie. Il promet de les sauver pleinement et gratuitement sans qu'ils accomplissent quoi que ce soit pour cela. Simplement reconnaître qu'on est des pécheurs. Il y a combien de gens... Écoutez, la croix, elle peut dire ce qu'elle veut aujourd'hui pour les gens. Hein? Il y a des millions de personnes qui portent une croix autour du cou qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Quoi. Pour eux, ça se limite simplement à un bijou. Quoi. Ça ne changera absolument pas leur vie. Quoi. Il y a des gens qui baignent dans le péché. Il y a des vedettes de cinéma qui baignent dans le péché. Ils ont des boucles d'oreilles en forme de croix. Ils ont des croix dans le cou. C'est décolleté jusqu'à presque au nombril. Pour eux, c'est simplement un bijou. Pour eux, la croix, c'est simplement le poids de l'or qu'il y a dans cette croix, le prix qu'ils ont versé. Mais la vraie croix, frères et sœurs, la vraie croix, elle a pour but de percer nos cœurs, comme les trous ont transpercé les mains et les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Transpercer nos cœurs pour qu'on puisse savoir tel qu'on est, quoi. Tel qu'on est, perdu sans lui, quoi. Aucun moyen d'être sauvé en dehors de lui. Et ce matin, je ne fais pas d'appel, mais ce matin, j'espère que vous allez quitter ce lieu avec la certitude que vous pouviez, que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Quoi. Il est présent. Un frère a prié, là où deux ou trois sont rassemblés. En son nom, il est au milieu de nous. Et on est une bande ce matin. On est une famille qui sommes réunis en son nom. Il est présent, il est vivant. Ouais. Et par son esprit, il peut venir habiter en vous. Lorsque nous saisissons cette vérité, nous arrivons à comprendre que lorsque nous venons à Jésus pour être sauvés de nos péchés, du jugement qui attend tout pécheur, nous trouvons vraiment le repos dans nos cœurs. Je vais me limiter à ça ce matin, mais il y a plusieurs choses qu'on peut retenir. C'est que d'abord, on trouve le repos en Dieu. On trouve le repos avec Dieu. On reçoit sa paix. Et la vraie paix se trouve aux pieds de Christ, notre Rédempteur. Paul dit... Mais en toutes circonstances, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et demandez-lui avec un cœur reconnaissant. Ça veut dire qu'on lui demande. On lui demande, mais le juste, il vit par la foi. Celui qui est justifié, il vit par la foi. Et déjà, il fait monter au trône de la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté ce matin. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accordé ces quelques instants, Seigneur, ce matin. Merci aussi parce que je sais que tu vas répondre, Seigneur. Notre seule force, c'est de garder notre calme et de faire confiance au Seigneur. Et il y a une autre chose que nous apporte le repos en Jésus-Christ. Nous sommes tranquilles face à l'éternité, quoi. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me répète depuis des années, mais quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui ne connaît pas le Seigneur, quoi, il vous prend par le manteau, là, il tire dessus, quoi. Il veut pas que vous partiez. Et il sait pas où il s'en va, quoi. Il est en train de se préparer un voyage pour l'éternité, il sait pas où il s'en va. Alors que nous, on le sait. Le Père nous dit qu'on a une espérance vivante, quoi. Frères et sœurs, ce sont de merveilleuses promesses que le Seigneur nous donne, et je termine avec ça. Remercions le Seigneur qu'il y ait un repos pour notre âme. Cela commence d'abord par une rencontre avec Jésus-Christ, ensuite développer une relation avec Jésus-Christ, et finalement, Dieu nous donne les ressources dont nous avons besoin pour demeurer dans son repos. Les gens les plus heureux sur la surface de la terre sont ceux qui ont une relation étroite avec Christ et suivent Jésus-Christ, c'est trouver la vie. Fermez vos yeux, je vais simplement vous poser une ou deux questions avant de terminer. On va chanter. Vous qui avez quatre jeunes, vous qui avez un certain âge, vous qui êtes rendu maintenant dans le troisième âge, où cherchez-vous votre repos ce matin? Où cherchez-vous votre repos ce matin? Vous pouvez le trouver en Christ, comme nous l'avons vu. Est-ce que vous cherchez dans un endroit particulier, dans les plaisirs de ce monde, dans tout ce que le monde vous offre? Ou si vous le cherchez chez une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Où cherchez-vous le repos ce matin? Que le Seigneur puisse remplir vos cœurs, non seulement de sa présence, mais que vous ayez la certitude qu'en ayant sa présence, vous ayez sa paix, et que vous puissiez vivre dans le repos que le Seigneur nous accorde en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.